et je vais en parler juste après, que jeûner, prier, donner aux pauvres, c'était mal. Ça fait partie de notre vie de disciple. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Il vaut mieux que tu donnes 1 euro de tout ton cœur que 100 euros juste pour être remercié et loué par les hommes. C'est ça que Jésus veut nous enseigner encore ce matin. Et il est à noter que Jésus ne dit pas si tu jeûnes ou si tu pries, mais quand tu pries et quand tu jeûnes. Et ça nous montre que le jeûne et la prière font partie pleinement de notre vie de disciple, comme donner. Donner sa dîme, mais donner aux pauvres, donner à ceux qui nous entourent, qui sont peut-être dans le besoin. Le Seigneur nous invite à mettre en pratique sa parole et à prier, à jeûner et à donner. Parce que quand on jeûne, ça nous permet de nous déconnecter des choses matérielles. On est dans un monde ici occidental, on a la chance d'être dans un pays riche. Même s'il y a peut-être des pauvres parmi nous, c'est un pays riche par rapport à d'autres pays comme l'Amérique du Sud, comme d'autres continents plus compliqués. On a la chance d'être dans un pays où il y a quand même beaucoup de richesses. Et le fait de jeûner, ça permet de se déconnecter des choses matérielles et de se recentrer vers les choses d'en haut. Colossiens 3:1 nous dit « Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. » Et je vous invite vraiment, si ce n'est pas quelque chose que vous avez expérimenté, moi pendant des années, pendant plus de 10 ans, je n'ai pas vraiment jeûné. C'était quelque chose de très compliqué. On est dans une église où on aime bien manger, il faut avouer. Mais je vous y invite, même si un repas pour toi, c'est difficile, je t'invite, vraiment, c'est une discipline de vie, c'est comme prier, c'est comme plein de choses, comme faire du sport, comme ce que vous voulez. Mais prenez du temps pour jeûner, pour vraiment mettre du temps à part pour le Seigneur. On a des vies à 100 à l'heure, mais tu peux mettre du temps à part. Et voyez, qu'est-ce qui ressort aussi à chaque fois de ce que Jésus dit? Il dit dans le lieu secret. Est-ce que tu as un lieu secret? Tu peux juste me baisser un peu, ça me permettra de parler un peu plus fort. Est-ce que tu as un lieu secret dans ta chambre, peut-être dans ton placard, peu importe où, mais pour prendre du temps avec le Seigneur? Ça peut être dans ton salon quand tes enfants dorment, mais je t'invite à avoir un lieu secret. Et là où tu passes du temps dans le lieu secret, c'est là où le Seigneur va te parler. Et lui qui te voit dans le secret, il te donnera des récompenses et il voit ton cœur. Et je pense qu'on a besoin de revenir à ces endroits, à ces moments cachés. Vraiment, il y a ces temps-là, ensemble, entre frères et sœurs, et c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu vis quand personne ne te voit? Qu'est-ce que tu vis dans l'intimité? Et vous savez, l'onction, c'est différent des dons. On est tous talentueux ici, on a tous des dons différents. Dieu nous a donné à chacun des dons extraordinaires différents. Mais ça grandit par la pratique. Vous voyez, on a ici des bons musiciens, chanteurs, ben, ils ont pratiqué leur instrument, ils ont pris du temps. Et en fait, c'est la même chose pour l'onction. L'onction, elle vient, elle grandit dans l'intimité. Quand tu passes du temps dans l'intimité avec le Père, dans sa présence, il y a cette onction qui grandit en toi, il y a cette présence qui grandit en toi. Alors si tu veux plus d'onction, si tu veux être plus loin, plus imbibé de sa présence, prends du temps dans l'intimité, là où personne ne te voit, peut-être le matin, le midi, le soir, peu importe. Dieu, il est tout le temps réveillé, il ne sommeille ni ne dort. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi, même si c'est 3h du matin, si tu es de la nuit, ben, lève-toi à 3h du mat et va passer ce temps avec le Père. On a besoin de ça, surtout dans les temps qui viennent. Si on n'est pas proche du Seigneur, si on n'a pas cette relation d'intimité, je pense que ça va être difficile. Parce qu'on ne peut pas se baser seulement sur nos rencontres ensemble, seulement sur 2-3 fois par semaine. On a besoin de cette manne de tous les jours. Alors prenons du temps avec le Père. Verset 7 du chapitre 6, « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. » Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Inutile d'essayer de tordre le bras de Dieu. Il entend nos prières. Et si nous prions selon sa volonté, il nous exaucera comme nous l'a promis son Fils Jésus. Et Jésus nous donne cette magnifique prière. J'ai un diaporama juste ici, si tu peux avancer. J'aimerais qu'on puisse la lire ensemble, que vous connaissez. Des fois, on se dit, mais Seigneur, comment prier? C'est dur, il y a telle situation ou quoi. Et de plus en plus, perso, je vous partage mon témoignage. Encore une fois, mais je reviens à cette prière du Notre Père. C'est extraordinaire. Dans ce Notre Père, je n'ai pas le temps de le décortiquer, mais il y a tout. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble et le proclamer ensemble, ok? Et prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Amen. Amen. Merci Seigneur. En effet, si vous pardonnez, verset 14, aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Pardonnez. Merci Claire qui a apporté cette parole, ce rêve qu'elle a eu du non-pardon. Vous savez que le non-pardon, j'ose le dire parce que c'est vrai, je l'ai vu et plusieurs l'ont expérimenté. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais le non-pardon peut être la cause de ta maladie, peut être la cause de ta non-guérison. J'ai expérimenté moi des personnes qui demandaient pardon et au moment où elles demandaient pardon, leur arthrite était complètement guérie. C'est incroyable la puissance du pardon. Il y a peut-être une autre cause dans ta vie, mais je t'invite à laisser le Saint-Esprit te sonder et dire « Seigneur, est-ce qu'il y a encore du non-pardon dans ma vie? Est-ce que j'ai quelqu'un à pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui j'en veux encore ?» Laisse le Saint-Esprit te toucher et pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu te libères déjà toi-même, tu sors de ta prison, mais tu libères aussi celui qui est emprisonné. La puissance du pardon, elle est incroyable. Alors le Seigneur nous y encourage, et c'est fort quand même, je le répète parce que c'est des paroles fortes, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc on voit que le pardon de Dieu il est quand même conditionné à nous pardonner aussi. Nous avons été pardonnés par Jésus, par son sacrifice, pardonnons aussi aux autres, c'est tellement important. Et vous savez, Pete et Amanda, pour ceux qui étaient là à la conférence, c'est un couple d'Anglais qui nous ont partagé ce témoignage tellement poignant de leur fille qui a été abusée. Et tout ce chemin vers le pardon où on voyait encore alors qu'il nous partageait Pete, ce papa, et on peut imaginer, moi, si ça m'arrivait à ma petite fille Elsa, mais je serais dévasté. Mais tout ce chemin qu'il a dû parcourir pour pardonner et pour libérer le pardon, même au milieu des larmes, même au milieu de la douleur. Et aux hommes, c'est impossible. Des fois, il y a tellement des atrocités, on dit « Mais Seigneur, je ne pourrai jamais pardonner. » Mais avec Dieu, tout est possible. Et Dieu peut te donner la force et peut travailler ton cœur pour que tu puisses pardonner comme il a fait dans la vie de Pete. Verset 9, ça nous parle que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni rouille ni mythes qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et j'avance au verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Mon frère, ma sœur, où est ton cœur? Où est ton trésor? Où est ton trésor? Est-ce qu'il est dans tes biens, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton compte en banque? Ou est-ce qu'il est là-haut? Est-ce qu'il est en Christ, dans le Seigneur? Et je pense que, justement, comme je disais, on a, dans un sens, le privilège d'être dans un pays développé, riche, mais en même temps, on a cette tentation, et je pense qu'on a cette tension de ne pas tomber dans l'esprit du monde où on attache notre cœur, notre trésor, notre énergie dans les choses de ce monde. Tout passera. Tout passera. Le ciel, la terre, vos maisons, tout passera. Mais le royaume de Dieu ne passera pas. Alors j'insiste bien, les richesses ne sont pas mal en soi, mais la Bible est claire. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce qui compte, c'est de savoir où est ton cœur. Tu peux avoir 10 millions d'euros sur ton compte et peut-être que ton cœur, il est bien ancré en Dieu et tout va bien. Ce qui compte, et j'aime bien ce mot, pour ceux qui ont été possédés par l'argent. Est-ce que ton cœur, est-ce que tes pensées sont possédées par l'amour de l'argent? C'est ça qui compte, parce que l'argent, tout ce qui est sur cette terre, peut être utilisé pour le royaume de Dieu. Le camion douche, et j'en parlais encore ce matin avec Gilles, a été financé par de l'argent. Tout ce qu'on vit, le Café Connect, tout ça, il y a des finances qui passent. Mais où est notre cœur? Est-ce qu'on fait ça pour récolter de l'argent, pour que notre église connecte soit enrichie? Ou est-ce qu'on fait ça pour que le royaume de Dieu soit manifesté, que le Montélimar entende parler qu'il y a un sauveur qui nous est né, que Jésus est la réponse à tous leurs problèmes? C'est pour ça, et c'est à ça que servent les richesses, c'est à ça que nous devons mettre notre énergie. C'est que l'argent, que les richesses ne soient qu'un moyen à ce que le royaume de Dieu soit manifesté. Et plus tard, dans Matthieu 6, il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. » Le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est pour ça que nous vivons. Amen. Alors le meilleur antidote, on a déjà parlé sur les finances et puis on en reparlera, mais je vous y encourage, si des fois tu te dis, mais Seigneur, c'est quand même pas évident. Comment aller contre l'esprit du monde? Je te donne juste une astuce qui, moi, me parle énormément et que je mets en pratique et que je vois que ça m'aide à vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Le meilleur antidote est d'agir selon le royaume de Dieu, qui est de donner et de recevoir. Le système de ce monde, c'est acheter et vendre. Le Bon Coin, Vinted, je suis désolé mesdames, j'ai rien contre Vinted. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui pour moi me dérange, et une fois de plus, tu ne pêches pas en allant sur Vinted, mais c'est juste pour vous dire, le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Si tu as un vêtement, si tu as quelque chose que tu veux plus, donne-le autour de toi. Expérimentez la puissance du Seigneur, et on l'a vécu, je l'ai déjà partagé en Angleterre, alors qu'on était fauchés comme le blé, on nous a donné 2 voitures. Il y a des personnes qui ont eu cette foi-là de dire, tiens, je te donne une voiture à plusieurs milliers d'euros, mais qui nous a tellement bénis, pour que je puisse travailler, pour qu'on puisse vivre convenablement et pouvoir payer nos factures. Il y a un principe biblique de donner et recevoir. Et alors que le royaume de ce monde, alors que le monde sait acheter et vendre. Alors donne, je t'encourage, donne, essaye, teste-le, donne et tu verras que tu recevras. C'est un principe spirituel. Et ne soyons pas inquiets, du verset 25 au verset 34 du chapitre 6, il est dit, ne soyons pas inquiets de ce que nous mangerons, de ce que nous buvrons, de quoi nous serons vêtus, car Dieu pourvoira à toute chose. Jésus nous encourage, demandez et vous recevrez ça, on l'a au chapitre 7, verset 7, facile à retenir, 7, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous, c'est vrai, on a eu beaucoup de parents ici, qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Personne. Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc nous qui sommes dans un sens mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je t'encourage, je nous encourage, osons demander. Je pense parfois on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas ou qu'on demande mal. Demande vraiment, dis, Père, tu vois ma situation, j'ai besoin de toi. Vraiment, merci d'intercéder, merci de venir dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu répond, parce que c'est un bon papa, c'est un bon papa. Alors ose demander, Dieu est tellement bon. Je vous inviterai à le relire chez vous. Je voulais faire partir un petit WhatsApp qui, je crois pas, est parti, mais de vraiment se lire ces chapitres 6 et 7 qui sont extraordinaires. J'avance. Il nous est parlé ensuite au chapitre 7, verset 1, de ne pas juger et de ne pas condamner. Et c'est un autre principe très important qu'on a besoin d'expérimenter dans nos familles, mais aussi dans notre église, dans nos églises. Ne condamner, ou dans d'autres versions, ne jugez pas les autres, pour ne pas être vous-même condamné ou jugé. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vas-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever là cette poussière, cette sciure dans ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Ne jugeons pas les amis, c'est tellement vrai. Enfin, moi je me sens tellement repris aussi des fois. Je dis, tu sais, fais attention. Et en fait, mais Seigneur, je vais déjà voir la poutre qui est dans mon œil avant d'aller dire à mon frère ou à ma sœur que ça va pas. Déjà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Et pour vous partager un peu de ma vie, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai un très bon ami sur Nîmes qui, on était très proches et on l'est toujours, mais on passait pas mal de temps ensemble. Et puis, vous savez, plus tu passes du temps avec un ami, même avec ton conjoint ou avec tes enfants, ou c'est les personnes les plus proches qui, parfois, au bout d'un moment, il y a certaines choses qui commencent à t'agacer. Et cet ami avec qui on rigole bien et qui est un très bon ami, il commençait à m'agacer parce que dès qu'on allait, moi, vous commencez à me connaître, j'adore le cœur à cœur, j'adore être profond, parler, dire voilà, je vis ci, je vis ça, on prie ensemble. Voilà, moi, j'aime le profond, le superficiel, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal de parler de la pluie et du beau temps. C'est pas trop mon genre de conversation. Et cet ami, on pouvait parler de plein de choses, mais voilà, dès qu'on commençait à rentrer dans le cœur à cœur, c'était horrible parce que des fois, je livrais mon cœur et je sentais que ça ne l'intéressait pas, ou en tout cas, il ne montrait aucun intérêt, il ne rebondissait pas, pas de questions. Et puis au bout d'un moment, ça m'agaçait et je commençais à le critiquer. Et puis d'autres amis disaient, ouais, regarde, lui, qu'est-ce que c'est pénible. Dès que je m'ouvre, dès que je parle, de toute façon, lui, il est superficiel, il n'écoute pas, il a du mal à s'intéresser aux gens, c'est quelqu'un de très superficiel. Et je me suis mis, en fait, à critiquer et parce que j'étais blessé. Et donc, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On critique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est incroyable, je l'ai vécu et pas qu'une fois. Alors que je critiquais, deux personnes, coup sur coup, sont venues me voir en me disant qu'elles avaient été blessées, car elles s'étaient ouvertes à moi et elles ne comprenaient pas mon attitude où je n'avais pas écouté, que je leur avais semblé que je n'étais pas intéressé à ce qu'elles me disaient. Et ce que j'avais jugé et condamné chez mon ami, en fait, je le vivais moi. Alors que je m'étais dit, mais moi, jamais, moi, tu vois. Et c'est ce que je disais lors de mes critiques. Moi, si j'étais à sa place, quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un partage son cœur, mais moi, si j'avais été à sa place, je l'aurais écouté. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? Je me considérais supérieur à lui, disant que si moi, j'avais été à sa place, j'aurais fait mieux que lui. Ça, c'est de l'orgueil. Et bien, Dieu m'a repris, m'a corrigé, puisque moi-même, je me suis fait prendre à mon propre piège ou à ma propre critique, puisque deux personnes étaient venues me voir pour me dire qu'en fait, je faisais la même chose. Et là, je me souviens, j'étais tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, mais pardon, en fait, qui suis-je pour juger mon prochain? Qui suis-je pour dire que lui ou elle, elles auraient dû faire ci ou ça? Seigneur, je demande pardon parce que je ne suis pas mieux qu'elle. Et si nous étions dans la situation de notre frère ou de notre sœur, est-ce qu'on ferait mieux? Est-ce qu'on serait aussi sage que ce qu'on dit? C'est facile de critiquer, c'est facile de juger les personnes quand on n'est pas dans la situation. Les amis, je vous en supplie, je nous en supplie, gardons-nous de nous juger les uns les autres. Que l'Église Connect soit connue pour une Église auprès du Père, peu importe que les hommes le voient ou pas, mais que nous soyons connus là-haut pour être une Église qui ne critique pas et qui ne juge pas. On est tous dans le même bateau, on n'est pas mieux les uns que les autres, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et vous connaissez ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ne va pas à chaque fois dire, tu sais, quand tu as fait ça, ça m'a fait ça. Des fois c'est bien de le dire, mais tous apprenons des fois à courir par l'amour et régler ça juste avec le Seigneur. Il n'y a pas besoin toujours d'aller voir ton frère et ta sœur pour dire que si ou ça, ça n'allait pas. Vraiment, on peut le régler avec le Seigneur, mais usons de grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Soyons pleins de grâce comme notre Seigneur est plein de grâce envers nous. Et c'est terrible, mais pourtant le monde dehors voit Dieu comme un père fouettard. Mais je trouve que des fois, nous-mêmes, sans faire esprit, nous agissons comme des pères fouettards. Dire, ah, regarde, lui, il a fait ça, ah, et elle. Et... Mais pétard, on a un Dieu de grâce. On a un Dieu plein d'amour. Que Seigneur, que notre Église soit un lieu où l'amour règne. Et attention, j'insiste bien, et on l'a déjà prêché plusieurs fois, ça n'empêche pas de dire la vérité dans l'amour. Si tu as un problème, soit avec moi, avec des responsables, avec un frère ou une sœur dans l'Église, que tu sens que c'est lourd, va voir ton frère, va voir ta sœur, dire, tu sais, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, ça fait 3 jours, quand tu as dit ça, ça m'a blessé. Et hop, ça donne l'opportunité de se pardonner, ça donne l'opportunité de se faire un gros câlin et de reprendre la route. Dire la vérité dans l'amour, c'est autant important que de ne pas critiquer. Mais attention, attention, ne jugeons pas. Ne jugeons pas notre frère et sœur. Et je vous encourage vraiment, je vous le dis en tant que responsable, je vous mets à l'aise, on ne fait pas tout parfait. On fait sûrement des erreurs, on fait sûrement des fois des mauvais choix. Mais je vous le dis, dans les temps qu'on vient, on a besoin de prière. On a besoin de la sagesse du Seigneur. Et si tu as des idées, si vraiment des choses te tiennent à cœur, viens nous voir. Et si peut-être qu'à un moment donné, on t'a blessé, on sera toujours prêt devant le Seigneur à se remettre en question et dire, écoute, pardon. Parce que ce qu'on veut, c'est une église où l'amour règne, où on est ensemble dans le même bateau pour que le royaume de Dieu avance. Et quand on perd du temps à se juger, à se critiquer, à se faire du mal, à se blesser, je peux vous assurer que c'est du temps en moins pour aller dehors et pour que le royaume de Dieu avance. Alors arrêtons de perdre du temps. Et soyons des frères et des sœurs qui se tiennent main dans la main, dans l'amour, et qui avancent pour que le royaume de Dieu se manifeste dans les rues de Montélimar et des alentours. Amen. 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 Et je vais finir donc avec ça très courtement. Entrez par la porte étroite, donc c'est verset 16, 13 du chapitre 7 au verset 29, je ne vais pas tout lire. Entrez par la porte étroite et faisons la volonté du Père. C'est assez difficile à lire, mais... ou à comprendre, mais entrer par la porte étroite, car en effet large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et je sentais que c'était important quand même de le prêcher et de le dire, les amis, Vivre avec Dieu, Dieu nous a jamais promis que notre vie serait facile. Dieu nous a jamais promis que parce qu'on est chrétien, parce qu'on a choisi de le suivre, tout serait facile. Par contre, il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Et je veux t'encourager, je suis désolé si on t'a vendu un évangile à l'eau de rose, que la vie serait un long fleuve tranquille, ben non, je suis désolé, je te fais tomber de ton escabeau. Mais non, ce ne sera pas facile, on a les mêmes épreuves que ceux qui sont du dehors. Par contre, c'est extraordinaire. On a cette espérance, même au milieu de la maladie, même au milieu de l'épreuve, même au milieu du deuil, Jésus est là. Le prince de la paix est avec nous, il n'est pas contre nous, il est avec nous et il est dit que lui-même intercède pour nous auprès du Père. Alors je t'encourage vraiment, mais cette porte, elle est étroite. Et parfois, ben oui, il y a des choses que nous devons abandonner. Il est le cep, Brice nous l'avait rappelé il y a plusieurs semaines, il est le cep. Nous sommes les sarments et on a besoin d'être émondés. Qu'est-ce que Dieu veut émonder dans ta vie? Parce que cette porte, il ne faut pas se leurrer, elle est étroite. Et on peut vite se laisser amadouer par les plaisirs de ce monde, par la soif de posséder, par plein de choses dans ce monde. Je nous encourage, nous sommes citoyens du ciel. Ne mettons pas toute notre espérance, toute notre confiance, toute notre énergie dans les choses de ce monde. Mais mettons notre espérance là-haut. Et ça ne veut pas dire être passif, ça ne veut pas dire ne rien faire. Dieu t'a mis dans ton travail, là où Dieu t'a mis. Par contre, il t'a donné cette pensée de l'éternité et cette vision du royaume. Donc là où tu es, dans toutes les sphères de la société, amenons le royaume de Dieu. Donc on n'est pas passif, mais on ne s'attache pas à ce qui est dans ce monde. Parce que nous sommes appelés à faire sa volonté, et c'est assez dur, je ne veux pas le dire, mais il y a plusieurs qui peut-être, mais c'est écrit, c'est pas peut-être, c'est sûr, qui, quand Jésus reviendra, diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons chassé des démons, c'est en ton nom que nous avons ressuscité les morts, c'est en ton nom que nous avons vu des guérisons. » Et Jésus dira « Mais je ne vous connais pas. » Et c'est vrai que ces versets sont assez durs, et en fait, il est, quand vous prenez le temps de lire, c'est qu'il dit qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, mais il est important de la mettre en pratique. Alors je nous encourage, tout ce qui est prêché ce matin, tout ce qui a été prêché sur les semaines d'avant, tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, mettons-le en pratique. On peut entendre des milliers de prêches extraordinaires, même sur Internet, il y a des super prêches, mais est-ce que tu le mets en pratique? Il vaut mieux que tu écoutes un prêche ou que tu lises un verset et que tu le mettes en pratique plutôt que 10 000 et qu'en fait, c'était super, c'était un super enseignement, ça m'a fait du bien et hop, tu continues ta vie. Laissons-nous travailler par le Saint-Esprit, laissons-nous émonder par le Seigneur pour faire sa volonté qui, je le rappelle, est bonne, agréable et elle est parfaite. Elle est parfaite, sa volonté, elle est parfaite. Alors soyons ce sage qui construit sa maison, vous pourrez le lire dans les versets 24 à 29, c'est ce sage qui construit sa maison sur le roc parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. La tempête est là, les épreuves sont là, c'est difficile, c'est pas facile, mais sa maison, elle tient bon. Sa foi, elle est enracinée en Jésus. Et malgré tout ce qui peut arriver, mais s'il y a des guerres, s'il y a la persécution, peu importe ce qui arrive, on ne sera pas ébranlé parce que nous avons mis notre foi en action sur Jésus. Mais si tu construis ta maison sur le sable, si ce n'est pas enraciné, le vent arrive, les difficultés arrivent, ce n'est pas évident et ta maison, elle s'écroule. Mon frère, ma sœur, soyons sages, soyons ces sages qui bâtissons notre maison sur le roc, sur Jésus. Il est l'espoir de ce monde, il est le prince de la paix, Dieu éternel, conseiller, il est un conseiller pour chacun d'entre nous. Oh, Dieu puissant, il est tellement extraordinaire, Jésus, nous allons fêter dans les prochaines semaines la naissance de notre sauveur, de Jésus. Plaçons notre foi en lui et mettons en pratique ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Je vous invite à...